PSQ, épisode spécial. Je suis accompagné de Maxime. Comment vas-tu?
Ça va très bien, Nicolas. Toi, ton côté?
Très bien aussi.
On continue notre série sur l'entrepreneuriat. On a fait un épisode plus général la dernière fois et tu avais ouvert des portes sur des sujets plus spécifiques qui étaient justement très intéressants puisqu'ils demandent une approche qui est particulièrement différente et à part entière. Cette fois-ci, on va aborder la gestion des clients qui est fondamentalement très différente d'un freelance comme moi. Et quand tu tombes en côté entrepreneurial, le nombre de clients augmente, le nombre de personnes qui touchent aux clients augmente et toute cette structure-là est fondamentalement très différente. Donc, amène des défis qui sont très, très différents. Puis je vais te laisser commencer avec ça.
Oui, ben en fait, pour faire un bref retour sur le dernier épisode, donc moi, j'ai commencé ma carrière entrepreneuriale comme solopreneur jusqu'à temps que, à un moment donné, j'ai décidé que j'avais envie de travailler sur un projet plus grand qui impliquait plus de gens et de ne pas être le point central de l'entreprise pour plein de raisons. Il y avait une raison de nouveaux défis puis aussi une raison de travailler sur des mandats d'envergure qui sont des fois plus grands, des fois plus petits pour tout dépendamment de comment on segmente les choses. Puis aussi de pouvoir me spécialiser, puis de pas être un généraliste, puis de pouvoir avoir plusieurs personnes qui ont des profils différents, puis des intérêts différents. Donc ça, c'est la base de ma quête, si on veut, là, de passer de solopreneur vers une entreprise avec plusieurs personnes là, impliquées. Fait que moi, j'ai commencé comme solopreneur, comme je le disais, puis je suis passé de, initialement, comme solopreneur, j'avais peut-être 5 clients, grosso modo, dont un qui occupait peut-être 70 à 80 du chiffre d'affaires. Fait que, tu sais, commence, puis tu dois le vivre aussi, toi, de ton côté, ou est-ce que quand tu es de cette taille-là avec aussi peu de clients, mais la relation que tu es capable de créer avec les clients est vraiment différente et personnalisée de quand tu fais plus du volume.
Oui, oui, c'est totalement un autre univers de ça, puis c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, parce que moi, je oscille entre 3 et 6 clients. Tout dépendant des périodes, tout dépendant de ce qui se passe sur le marché. Donc, de cette façon-là, à 3 et 6, généralement, j'ai un contact effectivement beaucoup plus personnel, comme tu devais avoir avec tes clients aussi. Donc, ça devient des relations directes avec le client dans lequel on établit cette relation-là. Puis quand ça va bien, on répète l'expérience dans le temps. Mais ça demeure une expérience qui est très personnelle. Mais quand on commence à changer, donc on s'en va vers devenir une vraie entreprise avec des employés et plus de clients, bien là, on monte 100, 200, 300 clients, là, ce qui devient virtuellement impossible d'établir ce lien personnel-là, du moins entre toi qui étais dans ce cas-ci solopreneur à ce que ton entreprise est rendue maintenant.
Oui, exactement. Puis tu sais, au-delà de, tu sais, tu peux avoir le nombre de clients, mais aussi le nombre d'intervenants dans ton entreprise. Donc, moi, le premier step que j'ai fait, ça a été de, pas d'augmenter le nombre de clients, mais d'augmenter le nombre de personnes dans l'entreprise. Donc, j'avais encore mes 3 à 5 clients, si on veut. Puis là, j'ai engagé une personne pour venir m'aider parce que je n'étais même pas capable de servir ces 3 à 5 clients-là, étant donné qu'on avait trop de demandes. Puis le fait de passer de une personne à deux, tu te rends compte de tous les gaps que tu as dans la gestion de l'information, la gestion des demandes, la documentation, le suivi des dossiers. Moi, je suis quelqu'un qui a une excellente mémoire. Donc, moi, dans ma carrière d'étudiant, là, autant au secondaire, au cégep, à l'université, l'agenda, pour moi, c'est un outil qui sert la première semaine pour tenter de se structurer alors que la session d'avant, t'as pas totalement réussi. Fait que la première semaine, hey, tout est noté là-dedans, les lectures, les travaux, les ci, les ça. Et après ça, ça devient un livre vierge qui sert à rien parce que ben j'ai tellement de bonne mémoire que je me rappelle des travaux, je me rappelle de ci, je me rappelle de ça. Puis ça, je l'ai vécu aussi en entreprise. Jusqu'à ce que, à un certain moment, ben là, le volume, parce que là, t'as plein de rencontres, t'as plein de projets, de subtilités. J'en ai pas tant que ça parce que j'ai 3 à 5 clients, mais à un moment donné, ça devient plus grand que ce que mon cerveau peut se rappeler. Puis là, c'est là que, ben, tu sais, d'avoir un calendrier, d'avoir un logiciel de gestion de projet. Au départ, tu sais, moi, je gérais ça, là, grosso modo, c'était du courriel. Du courriel, puis à l'époque, je me rappelle que Gmail avait un système pour mettre des petites tâches avec des crochets. Fait que c'est comme si c'était vraiment un one-liner, puis tu cochais quand tu avais fini, puis ça disparaissait dans le néant une fois que c'était terminé. Pendant longtemps, ça m'a convenu, mais la journée qu'il y a une autre personne qui est rentrée dans l'entreprise, tout ça ne fonctionnait plus. Donc, il a fallu s'adapter. Puis s'adapter, ben premièrement, c'était un, d'arrêter d'utiliser mon courriel personnel. Donc là, tu sais, de créer vraiment une structure d'entreprise où est-ce qu'on peut ben, avoir un bris, si on veut, ou une séparation plutôt entre le personnel puis le professionnel. Après ça, de pouvoir partager l'information. C'est juste de dire, ben OK, mais là, si je veux documenter tel processus, je mets ça où? Ben moi, je documentais tout dans mes courriels. C'était des courriels en draft, puis que je notais mes rencontres là-dedans, puis ça restait des drafts pour aussi longtemps que nécessaire. Fait que ça a été de créer comme une espèce d'intranet. Puis après ça, ben ça a été de faire comprendre aux clients que ben je n'étais plus la seule personne au courant du dossier et qu'à partir de maintenant, par exemple, ben là, mon collègue Nicolas va se joindre à la conversation et bientôt prendra le contrôle de la conversation et du dossier, puis d'arrêter de se référer à moi. Ça a été comme un passage là, dans la gestion de clients qui a été très, très difficile parce que les clients ne dealaient pas avec l'entreprise, faisaient affaire avec Maxime. Puis ça, à un certain moment, ça devient très, très difficile de se détacher de tout ça parce que moi, je suis au courant de tout. Il n'y a rien qui a été noté. Tout est dans ma tête. Comment je fais pour passer le savoir? Ben ça a été un très, très gros défi. Ça prend une volonté là, de faire pour être capable de documenter ça, que ça fasse du sens, puis de bien se structurer. Fait que je sais pas, toi, de ton côté, est-ce que tu te reconnais dans la gestion ou est-ce qu'il y a beaucoup de trucs personnels?
Ben, j'ai fait la séparation assez rapidement, mais dans l'absolu, mes boîtes courriels convergent toutes vers la même place. Fait que dans l'absolu, j'ai une place où tout converge, même si de façon abstraite, les noms de domaine changent par rapport à comment les gens écrivent. Fait que ça, déjà là, oui, mais non. Fait que j'essayais de
changer. J'avais exactement ce scénario-là.
Oui, ben c'est ça. Fait que c'est la façon facile de gérer. Ensuite, la documentation, ça présente un défi. Puis à terme, oui, j'avais une excellente mémoire, un peu comme toi aussi. Je prends très peu de notes. J'allais, puis ça même, à certains moments dans ma vie, ça l'avait insulté, notamment des clients, parce qu'ils voient, ils disent, ouais, tu prends pas de notes. Ils disent, mais tout est dans ma tête, j'ai pas besoin de prendre de notes, je prendrai des notes. Fait que tout cet élément-là a énormément guidé ma carrière, mais a rendu un certain volume, parce que mon volume professionnel est quand même assez élevé. Et là, je suis rendu à un moment où je commence à documenter, pas parce que j'ai du transfert de connaissances ou à ceux qu'il y a un suivi dans le dossier, mais juste moi pour avoir le suivi, parce que ce que j'ai appris avec le temps, c'est que même si moi, mes interventions sont discontinues, c'est-à-dire de façon continue chez un même client, j'ai le nombre de clients qui présentent, mais de façon alternée, puis de toute façon, tout dépendant des sprints de travail, des fois, ça peut prendre 2 semaines avant que je reparle au même à un client. Donc, lui, dans sa tête, il y a une continuité. Moi, dans ma tête, il n'y en a pas de continuité entre les deux.
Ouais.
Donc, c'est ce petit volet-là que j'ai dû apprendre dans les dernières années à pas aussi loin que qu'est-ce que vous avez à faire, mais quand même, un certain nombre pour être capable de reprendre le dossier. Et quand je reparle au client 2 semaines plus tard, ben, je le reprends exactement à l'endroit où je l'ai laissé. Pour lui, c'est ça qu'il vit. Même si moi, c'est pas ça. Et pour la relation client, c'est toujours mieux de donner cette continuité-là. Parce que c'est ça qu'il cherche aussi, le client, cette continuité-là. Il pense pas que, tu sais, même s'ils savent, ils savent pas en même temps qu'on travaille à plusieurs endroits en même temps. Donc, il y a comme un refus de leur part d'accepter ça. Puis c'est correct qu'ils voient pas parce que eux, le client, sont importants. Donc, d'amener ce genre de choses-là. Fait que oui, ça demande l'organisation. Avec le volume demande l'organisation. Mais le passage d'informations, ça demande un élément supplémentaire que je n'ai pas à faire, heureusement ou malheureusement, dépendant de comment on veut voir ça, mais justement qui permet de construire ça. Puis ça doit être quand même assez compliqué de partager la relation client avec d'autres collègues. Moi, je n'ai pas à faire ça du tout, fait que j'ai aucune idée comment je passe le bâton à un autre ou comment j'amène le client à dire « OK, c'était moi, mais maintenant, c'est nous ». Qui servons ça, puis d'amener à ça, c'est pour moi, ça, c'est complètement étranger. J'ai jamais eu à faire ça.
Mais tu vois, quand j'ai commencé, rapidement, une personne, on est devenu deux, puis après ça, on est devenu trois, puis quatre, assez rapidement. Puis à l'époque, la façon, avec un aussi petit nombre, à 3-4 personnes, la façon qu'on avait trouvé de faire ça, c'est qu'on se partageait les clients. Fait que, ben, tu sais, moi, je m'occupe de lui, toi, tu t'occupes de lui, puis là, ça fonctionne bien, jusqu'à temps que, ben, ça fonctionne plus. Fait que, dans le fond, la raison pour laquelle ça fonctionne plus, c'est quand, si, par exemple, on est deux, puis je m'occupe de deux clients, puis tu t'occupes de deux clients, puis que là, à un moment donné, ben, moi, mes deux clients me sollicitent à fond, ont plein de demandes, puis toi, de ton côté, tu as terminé ce que tu avais à faire. Ben là, on se retrouve devant un « Ah, OK, ben là, moi, je suis surchargé puis toi, tu n'as plus rien à faire. » Comment on gère ça? Puis ça a fait évoluer, dans le fond, les outils qu'on utilisait à l'interne. Donc, mettons, initialement, ben quand tu écrivais à notre entreprise, ben, tu écrivais directement à mon courriel à moi. Fait que moi, je gérais tout ça. Fait que c'était tout dans mes courriels puis la vie est belle. La journée que je veux que tu reprennes ce dossier-là, OK, comment si je vais-tu retourner dans mon historique de courriel et te forwarder toutes les communications qui ont eu lieu entre telle date et telle date. Comment je fais pour passer la balle là-dessus? Puis là, c'est là qu'on s'est procuré un système de gestion de tickets. Donc, dans le fond, c'est nous ici, tout est envoyé à support commercial satellite-wp.com de la part des clients. Et c'est une boîte qui est commune, donc qui est gérée avec un logiciel de gestion de tickets. Puis on peut s'assigner l'étiquette, se les transférer, puis tout ça. Fait que toute l'historique est bâti dans l'application. Puis après ça, les intervenants se font assigner certains projets, certaines parties de projets, certains clients, tout dépendamment de ce qu'ils font dans l'entreprise. Puis après ça, c'est aussi segmenté en fonction des tâches. Donc, je pars de mon exemple là, où est-ce qu'au début, Maxime s'occupe de tout. Bien, aujourd'hui, Maxime s'occupe pas de tout. Même dans la relation ou dans la tâche avec un client, c'est là, ça c'est relativement nouveau. On est rendu à un point où est-ce que on a vraiment séparé les ventes des opérations. Donc pendant un bon moment, n'importe qui pouvait faire de la vente. C'est-à-dire, si pour régler ton problème, tu as besoin d'acheter un plugin ou quelque chose comme ça, ben je le dis directement au client, je donne le lien, il s'arrange avec ça, puis je vais gérer après ça les accès, etc., etc. Maintenant, on a des silos qui sont plus définis, si on veut. Donc, on a la partie vente qui en est un, la partie opération, donc coordination, si on veut, le fait d'avoir quelqu'un qui va aller courir après les users puis les passwords de différents comptes, qui va coordonner que là, on a 22 tâches qui sont rentrées, lesquelles vont être faites, à quel moment et par qui. Puis après ça, ben, le dernier silo, c'est les développeurs qui vont faire l'exécution de ce qui a été demandé. Donc, si on recule de pas si longtemps que ça, on recule de comme quelques années, avec une personne qui pouvait potentiellement faire tout ça parce qu'on s'attribuait des clients et non des tâches liées à ou des responsabilités, si on veut. Mais là, le modèle a montré que on n'est plus capable de gérer de cette manière-là. Ça crée juste trop de confusion. Il faut surtout que les gens soient experts en vente, en développement, en relations clients, en gestion d'horaire, en conflit. Hein? Puis là, c'est la belle idée qui était théorique et qui a été pratique pendant un bon moment, ben nous a rattrapé, puis il faut tout simplement évoluer. Mais tu sais, je pense que si c'était à refaire, je referais les choses de la même façon, dans le sens où tu sais, aujourd'hui, avec le nombre de gens qu'il y a dans l'entreprise, c'est beaucoup plus facile de segmenter tout ça que quand tu es deux ou trois. Ben, à un moment donné, tu ne peux pas te passer la balle 22 fois parce que moi, je fais les ventes, toi, tu fais le marketing, moi, je fais l'opération, toi, tu fais l'exécution. Puis là, la même demande, on se l'est passé 5-6 fois en l'espace d'une heure. Ben, tu sais, ça ne fait pas de sens. Tandis qu'aujourd'hui, le volume fait en sorte qu'on peut occuper une personne pendant quand même beaucoup de temps à juste faire la coordination des choses, chose qu'on ne peut pas faire avant.
Oui, ben c'est ça, c'est que là, il y a un avantage réel à la spécialisation. Quand tu es trop petit, il n'y a pas d'avantage parce que tu ne réussiras jamais à occuper quelqu'un à 100% de son temps sur des tâches plus spécifiques et qui sont de coordination, par exemple, comme tu mentionnais, ou les ventes. Justement, en parlant de ventes, ça m'amène au changement parce que moi, ça, c'est inexistant. Soit c'est sous-traité ou soit c'est des relations directes. Là, d'arriver avec une équipe de vente ou au moins une personne à la vente, ça change vraiment le modèle. Ça change aussi la relation avec le client parce que avant c'était toujours la personne qui exécute ou proche, en tout cas dans l'entourage, la personne qui exécute. Ouais. Là, c'est plus la personne qui exécute. Là, c'est un tiers qui s'occupe de la relation. Ça doit avoir un effet qui est quand même sur ce qui se passe et comment tout ça se vit, autant à l'entreprise que chez le client.
Totalement. En fractionnant, si on veut, les deux côtés. Donc, dans le fond, nous, de notre côté, on appelle ça, d'un côté, c'est vente, de l'autre côté, c'est opération. Mais le passage de balle, donc entre ce que le client, la conversation qui a eu lieu initialement avec l'équipe de vente, ben, quand on veut passer ça à l'équipe d'opération, ben, c'est clairement, il faut que les notes aient été prises correctement, que l'information ait été passée correctement. Mais malgré ça, puis tu sais, ça, on est encore en apprentissage de ça, parce que entre ce que le client a dit, ce qu'il voulait dire, ce qu'il a dit, ce que j'ai entendu, ce que je voulais entendre, ce que j'ai écrit, ce que tu as compris, ce que tu as voulu comprendre pour l'exécution, tu sais, etc., etc., on voit qu'on a beaucoup d'endroits où est-ce que ça peut glisser puis on peut l'échapper. Donc, ça, cette portion-là, puis tu sais, on est dans un domaine technique, donc... Tu sais, les gens, par exemple, quand ils veulent un menu, ils vont souvent dire, mettons, ben, je veux rajouter un onglet. Mais tu sais, la personne aux ventes n'a pas à savoir si c'est vraiment un menu qu'elle veut dire, si c'est un onglet. Elle a juste besoin de noter. Elle passe ça à l'équipe d'opération. Puis après ça, au niveau des opérations, on va valider, là. Est-ce qu'on parlait vraiment d'un onglet ou si on parlait d'un menu? Fait qu'il y a des choses, des fois, que faut que les ventes nous le passent de manière très, très précise pour qu'on puisse agir. Puis des fois, malgré le fait non, la personne a vraiment dit, je veux rajouter un onglet. C'est comme, ça veut rien dire, un onglet sur le web. Fait que, dans le contexte de la demande. Donc, ben là, c'est à l'équipe d'opération d'aller reposer les questions, mais en faisant attention de ne pas faire répéter le client sur des choses qui auraient déjà été dites. Fait que c'est une espèce de fine ligne, des fois, entre ce que le client, il veut, ce que le client, il pense qu'il veut. Puis après ça, ben, tous les intervenants, nous, à l'interne, qui peuvent envoyer la demande exactement où elle doit aller, ou totalement champ gauche puis manquer de répondre correctement aux besoins du client. Fait que ça, on est encore en amélioration là-dessus. On se questionne constamment, on trouve constamment des nouveaux patterns. Tu sais, nos clients, on a des fois des gens qui sont des développeurs. Fait qu'ils autres, ils ont un langage ultra précis puis là-dessus, il n'y a pas d'enjeu. Jusqu'à la personne qui n'aime pas la technologie, qui n'a aucun intérêt, mais qui comprend que c'est un mal nécessaire dans sa vie. Ben là, elle n'a pas le même niveau pour passer l'information, pour le communiquer, puis qu'après ça, tu veux y expliquer, elle fait comme, mais je m'en sacre. Et c'est correct, tu sais. Mais tu sais, pour les gens à l'interne, il faut qu'on soit capable de s'ajuster, il faut qu'on trouve les bonnes personnes pour être en mesure de s'adapter à ces situations-là qui évoluent quotidiennement. En plus de la technologie qui, elle, n'arrête jamais d'évoluer. Fait que ça fait des fois, tu sais, on s'est rendu compte avec le temps que ça faisait beaucoup de demandes à une personne de saisir toutes ces subtilités-là. Donc là, on est rendu au point de segmenter. Puis plus on segmente présentement, plus nos processus sont clairs, sont précis, on sait qui en est responsable, puis on voit la valeur ajoutée autant pour nous que pour les clients.
Oui, absolument. Puis c'est un défi de comprendre, ou en tout cas de prendre un sens de ce que le client dit, et de le faire atterrir. Je ne l'ai pas de façon aussi directe que ça, mais il m'arrive souvent de recevoir une demande, puis là, de faire un sens pour mon domaine de ce qui m'est demandé, puis là, d'essayer de comprendre où il voulait aller avec ça, parce que, et comme tu dis, la personne s'en fout. C'est quand on se fait construire une maison, on s'en fout un peu le matériau qui est là, on veut juste le fini. Nous, on veut la porte, on veut les murs de telle couleur, on veut des pièces de telle grandeur, on veut pas savoir que ça prend tant de 2x4, on veut pas savoir cet élément-là. Les technologues, on a de la misère à se rendre compte que le client, comme tu dis, il s'en fout. Il y en a qui vont être gentils, ils vont nous le dire. Il y en a d'autres qui vont juste s'ouvrir, puis ils vont écouter notre jargon technique et qui vont passer à travers. Mais la réalité, elle est effectivement là, de réussir à comprendre et d'arriver à quelque chose comme ça. Puis c'est un défi, justement, pour éviter que les clients doivent répéter une fois que la demande elle arrive aux équipes techniques qui, des fois, à faire comme « ouais, non, je comprends pas ce qui a été pris en note ». Là, c'est de réussir à composer puis d'arriver avec quelque chose d'agréable pour le client.
Oui, puis c'est pas tout le monde qui se rend compte, qui communique bien ou qui joue le jeu correctement. Tu sais, je reviens à ton exemple de maison. Tu sais, des fois, mettons, pas avoir un client qui va nous demander, dis-moi, je veux toute ma maison, là, ce soit montée, là, en métal. Parce que du métal, c'est pas mal. Tu sais, je veux que ça soit solide. Puis, OK, mais ça peut être fait en bois, puis être aussi solide. Mais là, ils partent avec une espèce d'idée préconçue. Mais là, si nous, on part que, OK, il n'y a pas de bois, ça prend du métal, plutôt que de dire, ben, t'as peur, mais pourquoi qu'il veut ça? Puis là, d'arriver à challenger. Puis après ça, d'arriver à, OK, dans le fond, son but, c'est juste que ça soit solide, puis il n'est pas conscient que ça, un ou l'autre peut amener le même genre de solidité, mais tu sais, un ou l'autre a aussi des avantages et des inconvénients. Puis, est-ce qu'on veut les valider? Est-ce que, tu sais, tout ça dans l'évolution. Puis, tu sais, comme quand moi je suis parti jour 1, ben, j'avais tous les chapeaux. Mais aujourd'hui, quand on engage des gens pour joindre l'équipe, ces gens-là peuvent pas avoir tous les chapeaux, puis ont pas l'historique du pourquoi et du comment on fait ce qu'on fait, puis comme toutes les erreurs qu'on a faites qui amènent à, ben là, on a un processus, puis on n'en déroge pas parce qu'on sait que à toutes les fois qu'on sort du processus, le projet s'en va pas dans la bonne direction, puis ça crée des frustrations de part et d'autre. Fait que, tu sais, tout ça, on peut en parler comme ça, mais il y a une partie aussi d'expérimentation, puis d'être très, très ouvert aux réactions de nos clients dans le but de pouvoir s'ajuster. Puis moi, je me rends compte que la nature du travail a aussi évolué. Puis quand j'ai commencé, puis j'avais 3-5 clients, toutes les demandes que je faisais étaient en lien avec du code. Donc, les outils, moi, tout était lié, puis là, ça va être technique, là, mais tout était lié à un commit dans Git. Fait que c'était comme une demande, je crée un issue dans mon logiciel, je crée un commit. Puis là, tu sais, c'était ultra précis comme ça. Puis en évoluant, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de problèmes de configuration des outils, de compréhension des outils. Donc, souvent, notre travail n'est pas lié à produire du code, mais bien à comprendre l'interaction entre les divers outils puis déboguer des choses qui impliquent pas directement du code, mais plus de la compréhension d'outils, la compréhension de comment intégrer. Fait que là, présentement, on n'utilise plus du tout les outils de la même façon. Puis à l'époque, c'était un outil qui était totalement centré sur Git et la gestion de code. Puis aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur des tâches et de la gestion de temps. Puis ça, c'est l'évolution de ce qu'on fait qui nous a amené vers ça. Mais avec un échantillon, si on veut, de 3-5 clients, ben, tu n'as pas les mêmes enjeux que quand tu passes à plus qu'une centaine. Puis là, c'est là où on est rendu. Puis là, les enjeux en termes de gestion de clientèle se rattachent beaucoup à, par exemple, la gestion de la qualité. Fait que l'assurance qualité, ben quand je suis tout seul et c'est moi qui décide de comment ça se fait, ben c'est un peu difficile de ne pas respecter mes propres règles. Il y en a qui sont capables de faire ça, mais c'est pas le. De manière générale, quand tu es à ton compte, tu décides que tu fais X, ben c'est X qui arrive puis ça vient de s'éteindre. Quand tu es une équipe, puis que comme 4-5 personnes qui peuvent faire le même genre d'intervention, ben comment s'assurer que le niveau de qualité est le même, peu importe l'intervenant, que les conseils qui seront donnés aux clients sont les mêmes ou dans la même lignée, tout en essayant de pas trop teinter les gens pour qu'ils aient quand même leur personnalité. Fait que tout le monde vient d'un background qui est différent, a vécu différentes problématiques. Fait que des fois, on a des espèces de petits go-to de « ben moi, je fais jamais ça comme ça parce que ça m'est déjà arrivé de me faire brûler dans tel contexte. » Fait que comment on ramène tout ça dans une espèce de centre qui est commun pour assurer que peu importe qui fera la tâche, elle sera faite avec la même manière, si on veut, ou avec la même rigueur. Ben ça, c'est les enjeux justement de gestion de clientèle que quand t'es seul versus quand t'es 10, ça se gère pas du tout de la même manière. Fait que je me questionne à savoir de ton côté, si t'as deux fois le même genre de projet ou le même genre de client, comment t'assures que pour une même tâche, tu vas donner le même... T'sais, mettons, supposons que tu as une analyse de sécurité à faire sur un environnement, c'est comme un environnement quelconque, ben, comment tu t'assures que le premier rapport sera pas trop différent du deuxième? As-tu des mécanismes en place ou si tu y vas de manière plutôt lousse?
C'est des bases de connaissances qui établissent ce genre de choses-là. Je suis un peu moins structuré que pendant que la nécessité de votre côté de l'aide, justement, de la relation client, l'historique des bonnes façons de faire, les erreurs qui ont été faites dans le passé et comment se les éviter à l'avenir. C'est facile, puis c'est d'autant plus facile parce que moi, si je fais une erreur, je vais m'en souvenir, j'en referai plus. Quand on est dans une équipe, fait que je suis un client X ou des choses comme ça, fait que je répéterai pas deux fois la même erreur chez le client. Quand tu as une équipe, ben là, tu peux répéter deux fois la même erreur chez le même client parce que les deux personnes ne se sont pas parlé ou il n'y a pas de moyen de communication. Mais j'ai des bases de référence, je conserve beaucoup de ce que je produis d'une façon ou d'une autre, là. Pas ce qui est personnalisé, mais le contenu plus générique est conservé. Donc, je le prends, puis ensuite, je le réassigne tout dépendant des choses. Il y a certains avantages à faire ça parce que ça réduit les coûts. Parce que les clients n'ont pas besoin de payer refaire au complet le rapport, ils ne payent que le différentiel, ce qui leur sauve énormément d'argent. Puis ce qui donne aussi beaucoup de productivité de mon côté ou une impression de productivité de la part des clients parce que j'ai pas c'est pas eux qui financent 100% du travail qui a été fait. Ils en financent qu'une partie. Donc, il y a une répartition de coûts qui se fait comme ça. Ce qui fait que mes taux sont compétitifs parce que je suis capable de réussir à faire ce genre de choses-là. Les clients sont avertis que, bon, tu sais, je réinvente pas la roue à chaque fois. Là. Ça aussi, je suis assez transparent sur ce genre de choses-là parce que réinventer la roue n'est pas utile. C'est-à-dire, la technologie a été mise en place justement pour qu'on réinvente la roue. Donc, je ne réinvente pas, puis je suis très, très clair sur le fait que je ne réinvente pas la roue. Donc, dans ma relation de cliente, il y a beaucoup de transparence aussi de ce côté-là. Mais encore là, c'est facile parce que c'est un à un, c'est pas un à plusieurs. Donc, j'ai pas ce degré de partage horizontal d'information pour que la relation client demeure la même ou la même expérience pour le client.
Très intéressant. Puis, tu sais, je pense que l'aspect documentation qui n'était pas un aspect, c'est drôle parce que je suis passé de zéro documentation pratiquement à là maintenant. Tout est documenté. Si on veut pouvoir, entre guillemets, reprocher à quelqu'un de ne pas avoir suivi les procédures, ben, encore faut-il qu'il y ait des procédures. Fait que, tu sais, nous, de notre côté, la quantité de temps qu'on met en documentation, on a un logiciel de projet dans lequel on peut créer des templates de projet. Puis dans les templates de projet, on peut avoir des listes de tâches. Fait que des fois, on a juste des listes de tâches qui appartiennent à certains bouts précis. Et quand on a un projet ça implique une migration, bon, ben, prends le projet de migration, ben, en l'espace de 2 minutes, on a un projet qui est créé, puis on sait une migration, habituellement, ça va prendre à peu près combien de temps? C'est les 72 tâches suivantes dans tel ordre, puis la personne est capable, justement, de pas se tromper. Puis aussi, c'est quand il y a un changement dans l'équipe. Donc, si, par exemple, demain matin, tu décides de joindre notre équipe, ben, là, puis que quelqu'un, par exemple, la personne qui était responsable des migrations, ben, quitte, puis ça devient toi, ben, il ne faut pas qu'il y ait de perte de qualité dans l'historique qui a été bâti, même si la personne qui l'a bâti s'en va, change de poste, est réaffectée, peu importe la raison, ben, il faut être en mesure d'assurer le niveau de base, mais aussi de le faire évoluer. Puis la documentation, puis je le sais, ça, c'est vraiment pas sexy. Puis au début, quand quelqu'un joint l'équipe, il faut tout le temps se battre là, pour leur faire comprendre que non, c'est pas du temps perdu. Les gens aiment pas documenter, mais la quantité de fois que ça nous a sauvés, c'est fou, là. La quantité de fois qu'on n'a pas oublié de faire une petite étape parce que, ah oui, c'est vrai, parce qu'elle est documentée, puis que c'est une étape, il faut que tu accroches pour pouvoir arriver à la prochaine. Ça, et aussi, des fois, des questions qui arrivent plus tard dans les projets, là, où est-ce que là, les clients vont challenger certaines choses, disent, ah ben, mon collègue ici, parce que moi, par exemple, tu sais, moi, j'interviens souvent dans des situations qui sont plus problématiques. Ben, fait que moi, je suis dépendant de la documentation des autres. Fait que, tu sais, quand ils écrivent dans un projet, j'ai fait le code. Je sais pas, moi, de quel code on parle. Tu sais, fait que d'aller mettre plus de viande pour que la journée qu'il y a comme une question qui arrive, ben, je peux dire, ben, vous avez demandé X, Y, Z. Le développeur a fait X et Z parce que vous avez dit aussi dans l'appel téléphonique, là, ah, évidemment, ça, c'est pas noté. La conversation est pas notée, mais la personne a dit, j'ai eu un appel et la cliente a demandé de retirer l'option Y. Ah, OK. Fait qu'on a un historique de tout ça, mais mettre ça en place puis coacher les gens à l'importance de la documentation parce que si tu le sais comme freelance, ben, quand tu oublies quelque chose, ben toi, tu es la personne qui exécute, qui reçoit les félicitations et aussi qui reçoit le pot en pleine face quand ça fait pas la job. Ben, quand tu grossis, ça, c'est 3 personnes différentes. Tu sais? Fait que l'absence d'une certaine rigueur, ben, ne va pas toujours retomber sur la personne sur qui ça devrait retomber. C'est la personne qui est aux ventes qui va avoir travaillé super fort pour aller chercher la relation. Puis là, parce que quelqu'un dans l'équipe de production n'a pas fait ce qu'il devait, ben c'est la personne aux ventes qui doit faire l'appel difficile puis aller chercher un budget supplémentaire. Puis fait que ça, c'est un enjeu que ben souvent, quand tu es seul, ben tu comprends la game que, ah, OK, t'as merdé, t'as perdu le client, t'as perdu le revenu, puis ton voyage, tu peux l'oublier. Ben ici, malheureusement ou heureusement, ça fonctionne pas comme ça. Ça n'a pas d'impact direct. La paye va tomber quand même jeudi prochain pour tout le monde. Puis l'impact se fait comme à un niveau qui est différent. Donc, de sensibiliser les gens sur l'importance de la rapidité, de la qualité, de bien traiter les gens, mais aussi de pas se laisser marcher ses pieds. Parce que ça, c'est une autre chose que, tu sais, mettons, moi, à la limite, c'est ma business. Je peux décider de renvoyer n'importe quel client. Mais j'aimerais ça. C'est arrivé bien souvent qu'il y a des situations qui ont été escaladées jusqu'à moi où je me dis, waouh, vous avez toléré ce comportement de ce client pendant tout ce temps. Laissez-moi mettre fin à tout ça. Puis j'appelle le client, puis on dit c'est terminé. On se parle, je me ferai pas parler comme. T'sais, moi, je tolérerai pas de me faire parler comme ça, puis je tolérerai pas que tu parles comme ça aux gens de l'équipe. Fait que là, c'est encore une fois une opportunité de s'améliorer, mais tant que les problèmes viennent pas jusqu'à moi parce que le travail est segmenté, ben des fois, on voit pas tout. Mais je pense qu'à partir du moment où on est ouvert à s'améliorer, ici, on le dit constamment, il n'y a pas de vache sacrée. Fait que la procédure, elle est là, puis elle est bonne, puis on la suit jusqu'à temps qu'elle ne soit plus bonne et qu'on doive l'ajuster. Mais il faut tout le temps garder. C'est un peu dur de dire, fais exactement comme dans la procédure sans questionner, mais en même temps, questionne tout. Et ne le fais pas si ça fait pas de sens. C'est comme t'envoies les deux messages en même temps. Fait que un, c'est pour assurer la qualité, puis l'autre, c'est pour assurer l'évolution. Mais mixer les deux, ça demande une grande rigueur.
Ça doit être un bon défi. Moi, j'utilise les checklists parce que c'est la meilleure façon de ne pas oublier des points, ne pas oublier des éléments à produire, ne pas oublier la façon de faire. Mais je le vois pas comme étant une obligation. Puis c'est là aussi, puis ça prend une certaine forme de maturité professionnelle aussi, puisque quand j'étais plus jeune, tu te suis. À terme, tu comprends que ton checklist, c'est juste pour te sauver d'oublier des choses, puis tu suis. Mais tu peux la remettre en question à tout moment, justement, parce que si elle fait pas de sens dans le contexte, puis des fois, ça fait pas de sens dans le contexte, ben c'est on peut faire pas nécessairement le contraire, mais quelque chose qui est mieux adapté aux choses, et quitte à le documenter ensuite, comme tu dis, puis changer le checklist ou dire mettre un fork. Si on veut continuer dans les termes techniques, on forkait le processus parce que dans certaines circonstances, ben le processus général ne suffit pas. Il faut avoir un processus secondaire pour accueillir des déviations qui sont normales, mais qui doivent être traitées différemment.
Ben, tu sais, je veux dire, en théorie, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. En pratique, j'ai remarqué que la quantité de subtilité dans tous les processus font que la quantité fait que c'est pas toujours facile ou même possible pour certaines personnes de remettre des trucs en question. C'est-à-dire.
Je mentionnais maturité professionnelle qui permet ce genre de choses-là. Ça prend de l'expérience pour arriver là. Il faut s'être brûlé une fois pour comprendre les balises. Puis, bon, au moins une fois, là. Je me suis brûlé plusieurs fois sur différents aspects. Mais c'est le modèle là, théorique, là, comme tu dis, mais ça prend l'expérience. Et quand on commence, puis dans le fond, le conseil par rapport à ça, c'est poser des questions avant de faire un changement qui n'a pas été discuté avant. Là. Interroger les choses, s'assurer que vous n'êtes pas chose, parce que des fois, il y a des contextes que vous ne savez pas, il y a des contextes qui sont difficiles, ont été oubliés d'être documentés. On revient toujours sur la documentation. Des fois, ce n'est pas expliqué pourquoi. Et moi, je fais beaucoup l'effort d'expliquer le pourquoi des démarches, parce que une fois que le pourquoi est expliqué, les gens vont être un peu plus autonome dans la prise de décision, là, notamment chez le client. Là, j'essaie de l'expliquer pourquoi je fais les choses. En général, ça soulève moins de résistance.
Tu sais, je pense que tout part d'une bonne volonté, mais en même temps, tu sais, je prends, mettons, notre entreprise comme exemple. Tu sais, ça fait 7 ans que le projet roule. Entre le jour 1 puis aujourd'hui, il s'en est passé des choses. Pour moi, la différence entre ça fonctionne et ça fonctionne pas, c'est des subtilités, des dizaines, des centaines, voire des milliers de subtilités. Fait que quelqu'un qui arrive dans l'équipe, tu sais, juste mettons, c'est niaiseux, là, mais juste rentrer son temps correctement dans les projets pour éviter que les clients challengent. Puis, tu sais, au départ, c'était vraiment, vraiment un enjeu, là, parce que, tu sais, rentre ton temps, ça veut dire rentre ton temps. C'est pas très, très précis. C'est précis sans l'être. Je l'ai rentré mon temps. Mais puis là, avec le temps, on se rend compte de certains points de friction avec les clients. Donc, par exemple, le fait de dire j'ai envoyé un courriel de suivi puis de mettre du temps là-dessus, les gens n'aiment pas ça, se faire charger pour des courriels de suivi. Mais des fois, c'est essentiel, puis on l'a travaillé, puis il faut le facturer. C'est dans la façon que tu vas le dire, la façon que tu vas mettre ta note, la façon que tu vas briser ton temps. J'ai travaillé sur le projet 7h30 aujourd'hui. Ouais, mais là, quand le client va challenger ça parce qu'il comprend pas, dans un mois, parce que tu l'as travaillé le premier du mois, on a envoyé la facture le 30 du mois, puis il y avait 30 jours pour payer, là, on est rendu peut-être 60 jours plus loin. mais travailler sur le dossier, là, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que tu avais fait, parce que là, ils challengent ça. T'sais? Fait que, mais ça, il faut que tu te sois brûlé pour. Fait que là, on a comme toutes des règles par rapport à ça. Pas des entrées de plus que 3 heures. Que tout soit que les lignes soient toutes les entrées de temps, que le client puisse les voir, qu'on puisse envoyer le rapport, puis qu'il n'y ait pas de faute, puis que ça soit comme que chaque entrée de temps soit liée à une tâche qui a été demandée, etc., etc. Mais la personne qui se joint aujourd'hui, hey, ces subtilités-là, là, c'est sans fin. Mais nous, c'est chaque fois qu'on s'est brûlé. Fait que plus ça fait longtemps que tu es là, plus tu les as appris comme au compte-gouttes, ces choses-là. Mais quand tu arrives jour 1 ici, pour moi, c'est comme, ben ouais, mais c'est pas compliqué. Moi, je suis là depuis jour 1 puis je les ai digérés goutte par goutte. Quand tu joins une entreprise où est-ce que la structure, elle est très présente, mais c'est pas toujours évident, même si tu es de bonne volonté puis que tu veux bien faire. Fait qu'il y a comme un rappel constant de comment faire les choses, de surveiller, de mettre des mécanismes en place justement pour assurer la qualité. Puis c'est pas super populaire. Tu sais, rentrer du temps, c'est pas cool. Moi, je rentre mon temps à tous les jours. Je déteste ça. Mais c'est un mal nécessaire à ce que nos clients payent pour les bonnes choses, qu'on puisse aller chercher des subventions en recherche et développement. Puis, quand tu te le justifies, puis tu comprends que, ouais, mais tu sais, on vend des banques d'heures, donc si tu mets pas ton temps, on sera pas payé. Puis de l'autre côté, quand on développe des trucs à l'interne, ça nous permet à la fin de l'année de sortir tous les timings, puis de savoir qu'on investit de temps, puis d'aller chercher une subvention. Là, tu es capable de. C'est plus juste une entrée de temps, là. C'est ce qui fait en sorte que tu peux conserver ton travail, puis qu'on peut travailler sur de l'amélioration interne, mais d'expliquer ces contextes-là. Puis, on sort aujourd'hui, là, il y a à peu près une heure, on faisait justement le recap de la dernière année, où est-ce que on vient un peu faire le lien entre ce qu'on demandait puis ce que ça a donné. Puis j'ai comme l'impression à voir la face des gens que il y a eu beaucoup de petits « ah » qui se sont... comme de la compréhension. Les gens le comprenaient là, que c'était important de rentrer les heures, mais là, quand ils voient des résultats, puis qu'ils voient ce que ça a donné, puis qu'ils voient la différence entre avant quand on forçait pas tel truc, puis maintenant on le force, les résultats suivent. T'sais. Si tu veux t'entraîner dans la vie puis être en forme, y aller quand ça te tente, c'est pas vraiment ça le modèle. Ça prend une structure, une rigueur, puis une fréquence qui sera répétée, puis t'abandonnes pas, puis tu vas finir par les voir. Mais la première journée que tu vas au gym, là, quand tu reviens chez vous, si tu embarques sa balance puis tu checkes tes muscles, tu verras aucune différence. Puis si tu fais ça tous les jours, tu verras aussi aucune différence. Faut que tu regardes de comparer il y a 3 mois avec aujourd'hui. Puis là, tu vas être en mesure d'apprécier. Mais au quotidien, tu les vois pas, ces choses-là. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de répétitions puis beaucoup de discussions à l'interne parce que chaque personne est différente, chaque personne voit les choses de manière différente. Mais au final, la quantité de travail qu'on est capable de faire, puis aussi la quantité de choses que moi, je peux faire, par exemple, qui me plaisent, puis on se rend compte qu'en travaillant en équipe, moi, j'aime ça faire X, puis je déteste Y, puis toi, t'aimes ça faire Y, puis tu détestes faire X, moi, je vais te donner toutes mes Y, puis toi, donne-moi toutes tes X, puis là, tout le monde gagne. Chose que quand, mettons, j'étais seul, malheureusement, je me tapais 100% de tout. J'avais pas personne à gérer. La qualité était toujours à la hauteur de l'effort que j'avais mis. Fait que tu sais, il y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste que tu vois les choses différemment puis ça donne des possibilités différentes selon ce qui t'intéresse pour la suite.
Tout à fait. On a fait un grand show sur le centre, la relation client. Il y a le début et la fin qu'on a moins bien parlé. Un peu le début, mais pas la fin. Tu en as fait une mention de la fin. Comment les clients arrivent? Parce que la relation client, c'est aussi comment les faire arriver, comment ils atterrissent chez vous. Puis ça change ça. Parce que moi, le onboarding est assez simple. Ça, j'arrive, on me donne ma commande, j'exécute, je m'en vais. Dans un contexte, notamment des contrats aussi qui sont probablement plus longs, ce onboarding-là est un peu différent aussi.
Oui, en fait, mettons, pour ce qui est de l'arrivée des clients, donc l'arrivée peut se produire de plusieurs façons. Tu as du inbound puis tu as du outbound. Donc, le inbound, ça se trouve à être quelqu'un qui a vu une pub, qui a vu un article de blog, qui a vu nos médias sociaux puis qui nous contacte. Donc là, après ça, le rôle de l'équipe des ventes, c'est de les contacter, de prendre le besoin, de voir s'il y a un fit, est-ce que ça correspond? Parce que des fois, oui, mais des fois, non. Puis après ça, d'aller jusqu'à la vente comme telle. Fait que ça, c'est le rôle de l'équipe des ventes pour l'arrivée. Puis après ça, une fois que la vente est conclue, là, ça passe aux opérations où est-ce que tout est, dans le fond, les projets sont créés avec les listes de tâches, puis qu'il y a un passage ou un transfert de connaissances entre ce que les ventes ont reçu comme information, puis après ça, ce que l'équipe de production doit exécuter. Puis pendant la production, ben là, des fois, ça va arriver qu'il va manquer une licence. Ben là, s'il manque une licence, ben là, ça retourne aux ventes. Fait que là, les ventes vont être contactées pour leur donner le contexte. Puis tu sais, je le sais qu'en disant ça, aux yeux de souvent de gens qui sont seuls, ils font comme my God, ça doit tellement être compliqué. Là, il faut tout le temps que on passe tout le temps la balle. Je peux pas moi-même appeler. Puis on faisait ça comme ça jusqu'au moment où ça devient comme juste plus efficace parce que tu sais, de demander aux développeurs de se rappeler des prix puis des subtilités de toutes les affaires. Ça fait juste aucun sens. Fait qu'il y a comme une espèce de jeu de ping-pong, si on veut, entre les ventes et les opérations. Puis des fois, ça arrive que le contact est bon avec les gens d'opération, puis on va juste envoyer le lien. Achète telle licence sur notre site, puis on envoie le lien, puis ça se fait directement. Puis s'il commence à avoir une certaine friction, parce que la personne, je sais pas, elle a des questions, elle sait pas comment faire l'achat, là, ça va être remonté vers l'équipe des ventes qui va prendre ça, puis après ça, ça va redescendre vers l'équipe de production pour ce qui est de l'exécution. Fait que le onboarding se fait de notre côté de deux manières. Tu as le onboarding de faire la vente, qui est la première étape. Après ça, une fois que la vente est faite, tu as le onboarding technique, parce que là, on va contacter le client, établir le contact avec la personne qui est à la coordination, aller chercher les accès dont on a besoin. Une fois que ça c'est fait, bien, elle a planifié les travaux, passe ça à l'équipe justement de production, donc les développeurs qui vont se servir des accès, se servir du brief qui vient des ventes pour aller faire toute l'analyse technique. Puis après ça, tant que ça reste dans des tâches puis des demandes, ça reste au niveau opération, mais dès qu'il manque d'heures, par exemple dans une banque d'heures, ou qu'il manque un quelconque produit ou service, on remonte ça vers les ventes. Puis plus tu fais ça, plus là on se rend compte que tu sais, il y a des gens qui jouaient dans tous les systèmes, puis il y en a de moins en moins de ça. Fait qu'on a, par exemple, on a notre CRM, où est-ce que les gens des ventes sont côté CRM, ils ne jouent que là-dedans, puis l'équipe d'opération joue dans notre logiciel de gestion de projet, parce que là, on crée les projets, on crée les tâches, puis là, la ligne devient de plus en plus claire versus avant, tout le monde allait dans le CRM, tout le monde allait dans le logiciel de projet, parce que à un moment donné, tu sais juste plus, là. C'est la personne qui a un problème technique parce qu'il manque une licence, je mets ça dans le CRM ou je mets ça dans l'échelle de projet. Fait que là, à force de le faire, on identifie où va quoi, puis on commence aussi à payer beaucoup plus pour des outils. Chose que moi, avant, j'avais comme une très, très grande fierté à avoir à peu près 1 000$ de dépenses par année quand j'étais solopreneur. Puis je me rends compte que avec le temps, plus qu'on a dépensé d'argent, plus qu'on a été profitable, plus qu'on a été rentable, plus qu'on est en mesure d'aller chercher du revenu parce que les outils sont mieux connectés, sont plus spécialisés, ils coûtent plus cher, mais on peut les utiliser de manière beaucoup plus puissante. Puis moi, de mon côté, ça a totalement changé ma vision de « j'ai pas besoin de payer pour ça, je suis capable de le faire moi-même, puis je connais telle solution gratuite. » Puis là, maintenant, on paye, puis des fois, je regarde les bills, puis je me dis « oh my God, je peux comme pas croire qu'on met autant d'argent dans tous ces logiciels qu'on n'utilise pas tant que ça. » Mais quand tu regardes comment on les utilise, tout vaut la peine, puis on les rentabilise. Avant, mettons, je pense que je ne considérais pas mon temps comme de la bonne façon. Fait que j'étais prête à travailler très, 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 très fort pour trouver une solution gratuite. Aujourd'hui, quand je peux avoir quelque chose pour 100$, je me dis, OK, je vais être capable d'arriver à ce résultat-là en moins d'une heure qui est, tu sais, si je le transfère en facturable que je ne pourrais pas faire, là. Mais avant, je n'étais pas capable de penser comme ça. Fait que ça, c'est un grand shift en termes de la gestion des clients. Puis moi, mon rôle est devenu beaucoup plus un rôle de soutien auprès de l'équipe pour justement garder l'essence de tout ce qu'on a bâti au fur et à mesure où l'équipe grandit.
Oui, puis la licence, ça, c'est intéressant. Ça, c'est le transfert de perception de la valeur de son temps. Quand j'ai commencé à mon compte, un peu, mais comme tu n'as pas des gens techniques, on ne calcule pas notre temps parce qu'on peut le faire nous-mêmes, c'est pas grave, on ne calcule pas notre temps. On commence à calculer la valeur de notre temps. Ça commence à basculer différemment. On est moins prompt à utiliser notre temps pour ce genre de choses-là. Puis là, on bascule de plus en plus vers des outils parce qu'on calcule qu'il y a beaucoup de bénéfices par rapport à ça. Puis ça, c'est un des changements importants que j'ai fait. Que je passe moins de temps à bisouner. L'exemple que j'avais, c'était mon serveur de courriel. J'avais mon serveur de courriel, je le bisounais, je faisais mes affaires. Puis à un moment donné, je fais « Ah non, je passe trop d'heures là-dessus. » Puis j'ai finalement plus autant de plaisir à le faire. J'ai basculé ça à l'extérieur. C'est des sous, mais c'est du temps. Si je calcule en rendement, c'est, je tombe dans mon argent très, très, très rapidement. C'est une bascule très rapide qu'il faut qu'on effectue, justement, qui devient très intéressante. L'autre élément, c'est le onboarding ou la sortie du client. Des fois, c'est heureux, des fois, c'est moins heureux. Je vais voir un peu comment ça change. Moi, c'est comme ça. C'est juste, pour certains, ça se coupe. C'est assez direct, là, c'est binaire. Dans un cas d'entreprise, ouais. C'est un peu moins binaire que ça.
Oui. Ben en fait, tu sais, on est dans un domaine technique, donc il y a bien des gens qui ne comprennent pas. Tu sais, comme qu'est-ce qu'ils achètent. Puis il y a aussi des mouvements de leur côté dans leur équipe. Donc, par exemple, tu sais, on travaille avec une entreprise, puis la personne qui est au marketing, c'est elle qui s'occupe du site web. Dans son ancienne vie, dans une autre compagnie, ils ont été piratés, puis pendant 3 semaines, l'entreprise a été paralysée, ils ont failli faire faillite. Ben, quand elle arrive dans cette entreprise-là, puis qu'on lui propose un forfait d'entretien pour son site WordPress, elle est comme, oh oui, je le veux, je vois la valeur, puis on va le payer, puis il n'y en a pas de problème. Puis après ça, j'achète des banques d'heures, puis quand j'ai quelque chose, je me fie à des professionnels, puis blablabla. À un moment donné, cette personne-là a fait le tour du jardin, décide de quitter et est remplacée par quelqu'un qui était, mettons, un solopreneur, puis qui décide d'aller en entreprise. Puis lui, il n'est pas dans cette mentalité-là. Il ne s'est jamais fait pirater. Fait que lui, c'est comme, oh my God, 3 000$ par année. My God, c'est donc bien cher. Cancel tout ça. Pas besoin de ça. Ça, on peut s'en occuper à l'interne. Puis là, commence à couper les coûts, mais aussi à couper l'expertise et se peinturer un peu dans le coin par rapport à, ben OK, oui, tu es peut-être capable de le faire, mais c'est-tu la meilleure utilisation de ton temps? Puis la personne, comme tu dis, tu sais, mettons, je suis passé par là, fait que je le sais ce que c'est de considérer juste les dollars et non la productivité, puis le gain, puis etc., etc. Fait que des fois, il y a des sorties de clients qui, tu sais, souvent c'est ça, c'est un changement de garde, puis la personne qui était là avant avait une certaine vision, puis la nouvelle personne est partiellement d'accord, pas du tout d'accord, et des fois totalement d'accord. Mais quand c'est pas d'accord, ben des fois, ça met fin abruptement à la relation. De manière générale, on les voit venir, ce genre de choses-là. T'sais, on voit que le fit n'est pas totalement là. Puis tout ça, on est capable de. C'est rare qu'on a des méga surprises. Donc, quand ça arrive, quelqu'un qui veut quitter, mais la première étape, ça commence par l'équipe des ventes. D'aller valider le besoin, de comme êtes-vous sûr que c'est vraiment ça? Puis de regarder est-ce qu'on a d'autres produits et services qui pourraient alléger. T'sais, un exemple, là, c'est mettons, t'as des services annuels chez nous, puis là, ça va renouveler le mois prochain, puis t'as pas les liquidités. OK, ben j'annule tout. OK, mais tu savais-tu que tu peux passer en mensuel puis tu vas peut-être payer un petit peu plus cher par mois, mais sur ton cash flow, si tu n'as pas le cash, si tu n'as pas 3 000, là, t'as-tu 200, puis ça se peut, là, ça. Fait que des fois, souvent, les ventes vont juste dire, ben regarde, ajustons le forfait, puis au lieu de payer annuellement, ça va être payé mensuellement. C'est bien correct. Des fois, ça va être, OK, mais là, vous aviez un méga forfait, mais au lieu de tout annuler, on peut passer à un forfait en dessous, qui va avoir un petit peu moins de features, puis qui va correspondre à votre budget puis à vos attentes, puis OK, ben ça peut fonctionner. Des fois, c'est un autre produit totalement. Puis des fois, c'est non, c'est fini parce que un exemple, ça peut être, ben, tu sais, j'avais un site WordPress, puis j'ai fait faire un nouveau site, puis il n'utilise pas WordPress. Fait que là, dans ce cas-là, nous, on est zéro pertinent parce qu'on a fait que ça. Fait que là, une fois que les ventes vont avoir parlé, ben ça va être. Puis qu'on va avoir vraiment un. Tu sais, soit on change de produit ou on annule tout. Mais là, ça va retourner un peu comme pour le onboarding. Ça va retourner aux opérations pour dire, ben finalement, la décision du client est X et il faut faire Y. Puis là, si ça finit que, ben, par exemple, le client s'en va, ben là, il y a encore une fois un projet de départ de nos services avec tout ce qu'on doit faire. Donc, aller déconnecter, par exemple, tous nos outils, supprimer tous les mots de passe que le client peut nous avoir donnés. Puis après ça, remettre une liste de recommandations parce que même s'il quitte, ben, des backups puis des mises à jour pour son site, il va continuer d'en avoir. Puis nous, notre mission, c'est de réduire le risque, pas juste de nos clients, mais des sites WordPress. Donc, on a une liste de choses qui doivent maintenant s'occuper eux-mêmes puis on leur remet. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est plus que juste... On crée une business pour faire du cash, puis si tu me payes pas, on t'aide pas. La mission de la business est plus grande que juste l'argent. Donc, pour moi, c'est super important qu'on leur donne, qu'on leur dise, ben, tu sais, vous accordiez pas de valeur peut-être à ce qu'on faisait ou vous en accordez plus. Ben, voici maintenant ce qu'on faisait et que vous devrez faire par vous-même dans le but de réduire le risque, de réduire le piratage. Puis, ultimement, tout ça, ça rend service, je pense, à toute la communauté parce que plus qu'il y a de vols, ben, plus que ça fait monter les prix pour tout le monde et dans tous les secteurs. Donc, on poursuit notre mission comme ça. Puis on essaye, dans le fond, que ça se termine, peu importe la manière, là, que ça se termine aussi bien que ça a commencé, dans la mesure du possible. Évidemment, on n'est pas parfait. Des fois, on fait des erreurs. Des fois, les clients font des erreurs. Des fois, il y a des mauvaises compréhensions. Des fois, il y a, tu sais, c'est jamais noir ou blanc, ces choses-là. C'est rare que quand un client quitte, que c'est 100% de notre faute ou que c'est 100% de la sienne. Des fois, il y a un contexte à tout ça. Mais pour moi, c'est bien important de finir ça de manière ultra professionnelle. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va se recroiser. Puis moi, j'aimerais ça que si on a l'opportunité de retravailler ensemble parce que ça cliquait, puis c'est juste le... Par exemple, des fois, ça peut être le temps. Tu n'es pas capable de faire des ventes, tu n'en as plus d'argent, tu ne peux plus te permettre le service. OK, ben coupe-les, puis quand tu seras prêt à revenir, tu reviendras, puis on sera là. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on l'aborde. Fait que c'est très, très similaire l'arrivée puis le départ. C'est juste un petit peu à l'inverse dans certains cas.
Ouais, de toute façon, puis j'aime beaucoup l'approche que tu mentionnes parce que ça l'amène le bon karma. Puis je fais des choses similaires à ça où quand je quitte proprement toujours, je documente ce qui est à documenter, je fournis que ce soit une fin qui est plus rapide, faute de budget, parce que ça arrive des fois des fins de budget prématurées ou des changements d'orientation qui sont les cas classiques. Mais en général, on les voit arriver, ces éléments-là, même comme solopreneur, on les voit arriver, fait qu'on est capable de se préparer et de préparer notre sortie propre. Ça m'a servi énormément dans plusieurs clients qui m'ont maintenu malgré les coupures, m'ont maintenu plus longtemps parce que je n'étais pas assis là à juste collecter de l'argent. J'étais là, j'ai continué à apporter de la valeur, même en sortie et tout en compréhension de la situation dans laquelle ils vivaient. Fait qu'en général, ça se passe très bien, cette zone-là aussi. Mais effectivement, le checklist, puis c'est un peu la folie de bien des gens de penser que le checklist, c'est comme donner de la business à d'autres. Ton savoir-faire, c'est pas un checklist. Et ça, on l'apprend vite que c'est ton savoir-faire. Même, tu peux le documenter quand tu veux, c'est pas un checklist. C'est plus compliqué. Comme tu disais, c'est des subtilités.
Totalement. Va dans le meilleur restaurant au monde puis vole toutes les recettes. J'ai comme des gros doutes que si tu n'as pas de base en cuisine, tu vas être capable de répliquer tout ce qui est sur les dites recettes. Là. Donc, fait que pour moi, c'est il y a une notion entre avoir l'information et être en mesure d'en extraire les nuances et d'appliquer. T'sais, n'importe qui peut prendre un crayon pour faire un gribouillis sur une feuille, mais il y a comme une différence entre ça et écrire un livre. Écrire un poème, oui. Tu sais, fait qu'il y a comme plein de subtilités. Tu sais, moi, j'ai Word sur mon ordi, ça fait pas de moi un écrivain. Tu sais, fait que c'est là souvent que. Fait que la liste, elle est là. Évidemment, on donne pas toutes les recettes, mais au moins, tu sais exactement ce que tu as à faire. Tu as des exemples d'outils. Puis, tu vas te rendre compte que, on se croisait pas les doigts finalement, puis que ça le valait. Mais après ça, tu sais, les raisons qui ont mené au départ, sont propres à chacun, puis c'est très, très correct.
Oui. Je te remercie énormément. On a fait un grand tour de la gestion de clients, vraiment, vraiment en très grande profondeur, même plus que j'avais anticipé. Merci énormément. On a une suite. De toute façon, on va poursuivre avec le fait d'avoir un partenaire en business. C'est compliqué, ça amène des défis en soi. Tu avais même effectivement mentionné que ça aussi, c'est un sujet complet. Donc, on va l'aborder la prochaine fois. Puis d'ici là, soyez prudents et faites attention à vos sites. Merci.
Merci à toi.